Vous avez reconnu?
Oui.
J'imagine que oui, c'est vrai qu'il n'y a pas le répondant, c'est dur ça. Alors je vous demande juste un petit instant, je règle quelque chose pour enlever. Voilà, ça sera mieux comme ça. Super. Vous m'entendez bien? Génial. Excellent. J'aime bien cette série, vous l'avez reconnue, c'est la série Mission Impossible. Il y a toujours au début cette séquence où la mission est donnée à Ethan Hunt et il y a un message qui lui est donné qui va s'autodétruire au bout de quelques secondes. Et Ethan sélectionne alors chaque fois la meilleure équipe possible et au final, la mission dite impossible est accomplie avec panache. Vous aimez bien cette série? Vous la connaissez? Vous l'avez déjà vue? Moi j'aime beaucoup. Ça finit toujours bien en plus, c'est impeccable. On va parler un peu de ça aujourd'hui. On vit une situation extra ordinaire, une situation qui n'est vraiment pas ordinaire, où le monde est en train de se remettre en question. Ce qu'il a construit, ce qu'il construit peut être renversé en un instant, et à la fin, qu'est-ce qui reste? Et actuellement, beaucoup se posent des questions. Beaucoup ont peur de la mort, beaucoup souffrent et vont souffrir pas seulement du virus, mais de toutes les conséquences que cette pandémie peut avoir. Au niveau de la santé, au niveau économique, au niveau psychologique aussi, j'ai lu un article qui... où des psychiatres, des médecins s'inquiètent des effets que ça peut avoir sur les gens. Il y a des situations difficiles dans les familles, il y a eu de la violence au niveau des familles, il y a eu des adolescents qui ont dû être hospitalisés parce qu'ils ont craqué. Et certains sont, il y a une anxiété qui est montée, une angoisse qui est montée, et donc certains sont proches même du suicide. Et j'aimerais dire, Andrew l'a très bien dit avec Megan dans leur témoignage, il n'y a qu'une seule réponse à tout ça. Un seul nom, Jésus. Jésus est la seule réponse à tout cela. Nous le savons, nous le croyons et nous portons ce message en nous. Et on a une opportunité exceptionnelle en tant qu'Église, une opportunité comme jamais dans notre siècle pour apporter ce message autour de nous et travailler dans la mission que Jésus nous a donnée. Une mission impossible dont le message ne s'autodétruira pas. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin. Les premières paroles de Jésus à ses disciples après sa résurrection. C'est le moment où il va leur donner ce grand mandat d'aller porter ce message, la bonne nouvelle de Christ parmi toutes les nations. Une mission impossible confiée à une poignée d'hommes abattus, découragés, tristes et apeurés. Alors, si vous avez vos Bibles, je n'ai pas préparé de diaporama. Comme vous êtes à la maison, je suppose que vous avez tous accès à vos Bibles, donc je vous invite à la prendre. Et on va lire ensemble dans l'évangile de Jean. On va lire au chapitre 20 et on va lire les versets 19 à 23. Donc l'évangile de Jean, chapitre 20, 19 à 23. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit: Que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que elle est pleine de trésors pour nous. Saint-Esprit, je te prie de nous conduire alors que nous allons méditer ta parole, de nous conduire dans la vérité, de vraiment mettre en lumière ce que nous avons besoin de recevoir chacun ce matin. Je te prie de travailler nos cœurs, je te prie de travailler nos pensées, de travailler notre intelligence et vraiment de nous toucher, Seigneur, au plus profond. Vraiment que tu nous bénisses, Seigneur Jésus. Et merci parce que tu vas le faire. Ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Amen. Amen. On retrouve cet épisode dans l'évangile de Marc et de Luc, et je vous encourage à les lire. Je crois que c'est dans Marc 16 et Luc 24. C'est intéressant de les lire car ça se complète et ça donne des éclairages différents sur une même situation. Les portes étaient fermées. Les disciples ont peur. Ils se sont enfermés. Ils ont peur de ceux qui ont crucifié Jésus. Ils pleurent. Il faut comprendre que ce Jésus qu'ils avaient suivi, qui les avait enseignés, qui avait passé du temps avec eux, qui avait fait des miracles, qui a fait des guérisons, qui a délivré ceux qui venaient à lui, est mort de façon horrible. Et ils ne comprennent pas. Ils sont inquiets. Leur maître s'en est allé. Ils se retrouvent seuls. Et ils se sont enfermés. Ils se sont enfermés chez eux. Et il y a quelque temps, je me suis senti un peu comme les disciples. J'ai donné ma vie à Jésus il y a des années. J'ai vu des choses extraordinaires avec lui. Je suis enseigné par sa parole. Il m'a guéri de façon surnaturelle. Et malgré tout ça, j'avais une certaine crainte de sortir. J'étais confiné comme tout le monde chez moi, stupéfait par ce qui était en train de se passer, dépassé par les événements, attristé par le nombre de morts qui ne cessaient de s'accroître. Et qui ne cessent de s'accroître. Et même si j'ai la foi, par moments, j'avais peur. Et je pense que c'est un sentiment normal. On aime bien contrôler les choses, surtout moi. Je sais que j'ai besoin de grandir là-dedans, grandir dans la foi, grandir dans le fait d'abandonner à Dieu ce que je veux tenir. Et ce que je trouve super dans ce texte, c'est Jésus n'a pas eu besoin de frapper. Il n'a même pas eu besoin d'ouvrir la porte. Il était simplement là. Les portes étaient fermées et Jésus se tenait au milieu d'eux. Il n'était pas un fantôme. Au verset 20, il nous est dit qu'il a montré ses mains, il a montré son côté. À un autre endroit, dans l'évangile de Luc, il nous est dit, même il dit à ses disciples, « Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Et il va même manger un morceau de poisson grillé devant eux. Il est simplement là, malgré les portes fermées. Et j'aimerais commencer par vous dire, Jésus peut venir dans notre vie, dans votre vie, et se tenir là. Là où personne d'autre ne peut se tenir. Il peut venir là où même les personnes qui sont les plus proches de vous ne peuvent venir. Là où aucun docteur ne peut aller. Même si vous êtes enfermé, il peut se tenir là, près de vous. Même en vous. N'importe où, n'importe quand, il n'y a aucun endroit où vous puissiez être où Jésus ne peut venir. Aucune profondeur de votre personnalité que Jésus ne peut atteindre. Aucune. La résurrection de Jésus d'entre les morts lui permet de faire ce que personne d'autre ne peut faire. Il n'y a personne d'autre comme lui dans tout l'univers. Il est vivant. Il est le seul, unique, à la fois totalement homme et à la fois totalement Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer ce dont il est capable. Les disciples avaient peur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, leur maître vient d'être crucifié. Ils étaient de ceux qui les suivaient. Et ils ont toutes les raisons d'avoir peur. Et la peur les paralyse, comme elle nous paralyse. Peur du virus, peur de perdre un être cher, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas réussir. C'est là que nous avons besoin de Jésus. Au travers de ce qu'il fait dans ce passage, Jésus nous montre qu'il vient vers les siens quand ils ont peur. Il n'attend pas qu'ils se ressaisissent. Il n'attend pas qu'ils aient assez de foi pour surmonter leur peur. Il vient pour les aider à avoir assez de foi pour surmonter la peur. Et il le fait encore aujourd'hui. Jésus est ressuscité et il est vivant. Et nous sommes plusieurs ce matin qui pourrions témoigner que c'est vrai. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 41, au verset 10, il nous est dit « Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas les yeux inquiets, car je suis ton Dieu. » Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Et il le fera si vous vous tournez vers lui ce matin. Sachez qu'il le fera. Il viendra vous fortifier, vous soutenir. C'est extraordinaire. Les disciples, au verset 20, nous est dit, se sont réjouis quand ils ont vu le Seigneur. Ils se sont réjouis. Et c'est ce que la présence de Jésus fait dans nos vies. Quand nous prenons conscience de sa réalité, de sa présence, la joie vient. Les circonstances qui entouraient les disciples n'avaient pas changé. Ils étaient en danger, mais la présence de Jésus réjouit leur cœur. Et parfois, on traverse des épreuves, mais pas comme le monde, car Jésus est là. L'épreuve est toujours là, mais la présence de Jésus me donne la paix et réjouit mon cœur, même quand j'ai mal, même quand c'est difficile. Réaliser la présence de Jésus. Habituellement, quand je vais au travail, j'ai l'habitude J'ai 1 heure de route aller, 1 heure de route retour, et j'ai l'habitude d'écouter de la louange, et ça me fait du bien. D'écouter des messages, et ça me fait du bien. Et c'est vrai que depuis qu'on est confiné, ben, j'ai plus temps de trajet aller-retour. J'avoue que je dors un peu plus le matin. Je devrais en profiter pour me lever plus tôt et méditer la parole de Dieu. Mais non, je dors un peu plus. Et j'ai pas réalisé à quel point ça me manquait. Et récemment, j'étais seul à la maison, je faisais la cuisine, et je me suis dit, tiens, si je mettais un peu de louange. Et il y a une atmosphère qui est venue. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais je me suis mis à pleurer parce que je sentais que Jésus était là. Jésus était là. Et quand Jésus est là, il y a cette paix qui vient, cette joie qui vient. Jésus se tient au milieu d'eux. Jésus n'a pas averti ses disciples de sa venue. Il n'aura pas envoyé un SMS, il n'aura pas envoyé un WhatsApp pour dire attention, je vais débarquer, préparez-vous. Il vient se montrer à eux. Il veut qu'ils le voient, qu'ils comprennent ce qui vient de se passer. Il veut qu'ils comprennent ce qui vient de se passer, qu'ils voient qu'il est ressuscité. Il veut qu'ils l'aiment. Et ma prière ce matin, c'est que Jésus le fasse encore. Si vous n'avez pas rencontré Jésus, sachez qu'il vous dit ce matin, je suis là. Je veux changer ta vie. Je veux que tu me vois tel que je suis, vivant. Vivant et rempli d'amour pour toi. Je suis celui qui peut te donner la paix. Peut-être vous ne vous attendiez pas à ce que cela soit aujourd'hui. Mais comme les disciples qui ne s'attendaient pas à le voir, Jésus vient t'interpeller ce matin, là où tu es. Dans l'évangile de Marc, nous lisons que Jésus leur a aussi reproché leur incrédulité et la dureté de leur cœur, car ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Il y avait Marie-Madeleine, notamment, qui était allée au tombeau et qui avait vu Jésus, et qui avait rapporté ça aux disciples, mais les disciples n'ont pas cru. Il y a eu aussi ces deux disciples, les disciples d'Emmaüs, qui sont venus rapporter ce qu'ils avaient vu, mais les disciples ne les avaient pas cru. Et Dieu leur reproche cette incrédulité, cette dureté de cœur. Et j'aimerais vous dire ce matin, faisons attention quand on entend des témoignages de ce que Jésus fait la vie dans nos frères et sœurs. Ne doutons pas de ce que Jésus est capable de faire dans la vie des personnes autour de nous. Au contraire, laissons-nous interpeller, réjouissons-nous. Cela fortifie notre foi. Dieu est un Dieu, on l'a chanté, on l'a déjà dit, mais grand, puissant. Il est capable de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il le veut, où il veut. Alors, quelles ont été les premières paroles de Jésus pour ses disciples après sa résurrection? Pour les 11 les plus proches de lui, ceux qui l'ont accompagné chaque jour. On va regarder ça ensemble un peu plus en détail dans ce texte. Premièrement, il va leur dire quelque chose deux fois. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Il va commencer par ça. La paix de Jésus est première ici. Elle vient avant que les disciples n'aient à faire quelque chose. Et l'ordre est important. La paix de Jésus est la fondation de tout ce qui va suivre. Si vous n'avez pas cette fondation, vous ne pourrez pas bâtir de la bonne manière. Vous bâtirez pour essayer d'obtenir cette paix alors qu'elle est donnée au départ. Quand Jésus se présente aux disciples, il leur montre que c'est bien lui. Voyez mes mains, celles qui ont été percées par des clous. Voyez mon côté, celui qui a été transpercé sur la croix. C'est bien moi. Celui qui a été crucifié, je suis vivant, je suis ressuscité. Et ça y est, il commence à comprendre ce qu'il n'avait pas compris jusque-là. Et Jésus leur rappelle que c'est là ce qu'il leur disait lorsqu'il était avec eux. On le lit dans l'évangile de Luc. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts et le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Les disciples commencent à comprendre. Et voilà ce que la paix de Jésus donne. D'abord, la paix de Jésus donne la paix avec lui. Jésus est venu à eux pour les aider, pas pour les juger. Jésus vient à eux au moment où ils sont les plus fragiles, et après même qu'il l'ait abandonné. Avant la crucifixion, il l'avait abandonné, ils sont partis. Même Pierre l'avait renié. Jésus vient pas pour les juger, mais il veut les aider. Donc la paix de Jésus nous réconcilie avec Jésus lui-même. La paix que Jésus donne, que Dieu donne, c'est la paix avec Dieu. Parce que c'est son plan pour sauver l'humanité. du châtiment éternel, pour que nous puissions revenir dans sa présence. C'était sa volonté, c'était la volonté de Dieu que Jésus vienne et qu'il donne sa vie, et qu'il meure et qu'il ressuscite. C'était sa volonté pour que nous puissions être réconciliés avec lui, pour que nous puissions à nouveau venir dans sa présence, parce que nous étions séparés de sa présence à cause de notre péché. Cette paix, c'est aussi la paix avec Dieu. La paix aussi, c'est la paix avec les frères et sœurs en Christ. Être en paix dans notre relation verticale avec Dieu, mais aussi de manière horizontale avec nos frères et sœurs en Christ. Paul nous dit dans la lettre aux Galates, au chapitre 3, les versets 27 et 28, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Vous êtes un en Christ Jésus. La paix de Dieu nous réconcilie les uns avec les autres. Et la paix de Dieu nous réconcilie avec nous-mêmes. Dans Hébreux 9, versets 13 et 14, il nous est dit « Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant ?» Purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant ? Être en paix avec nous-mêmes. Ça ne signifie pas que nous changeons de point de vue sur notre péché passé, que nous le voyons comme désirable. Cela ne signifie pas non plus qu'il va cesser d'être douloureux immédiatement, mais cela signifie qu'il cesse de nous paralyser. Il va arrêter de nous empêcher d'avancer. Même si la douleur n'est pas enlevée immédiatement, le châtiment, lui, l'est. Immédiatement enlevé par le sacrifice de Jésus. Instantanément. Cela nous permet de guérir, de ne pas nous sentir disqualifiés et d'avancer dans les plans que Dieu place devant nous. Et ça, c'est vraiment important. La paix que Jésus offre aux disciples est la paix qu'il a accomplie lorsqu'il est mort pour eux à la croix. C'est moi qui suis mort. Je suis celui que vous avez abandonné. Je suis celui qui a été transpercé à cause de vos transgressions. Et si je peux vous offrir la paix, c'est parce que mon sang a couvert votre péché. Parce que mon sang a couvert votre péché. Et vous pouvez la recevoir aujourd'hui. Vous pouvez recevoir cette paix si vous acceptez, si vous m'acceptez comme votre Seigneur et Sauveur. Jésus dit, si vous acceptez que je sois mort pour vous, pour porter le poids de vos transgressions, afin que vous soyez réconciliés avec Dieu, votre Créateur et Père, vous allez recevoir cette paix. À tous ceux qui l'ont reçue, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Donc voilà cette première parole de Jésus. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Ensuite, il continue et il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. J'ai accompli ce pourquoi je suis venu. J'ai fait ce pourquoi le Père m'avait envoyé. Je suis allé jusqu'au bout. Maintenant, c'est moi qui vous envoie. Ce que j'ai fait, annoncez-le au monde entier. Et Jésus les a envoyés. Et il nous envoie aussi, comme le Père l'a envoyé. Et j'ai essayé de réfléchir, mais comment est-ce que le Père t'a envoyé, Seigneur ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, aujourd'hui ? Dieu a envoyé Jésus d'abord par amour pour le monde. Beaucoup connaissent très bien ce verset de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde. Réalisons que notre envoi s'inscrit dans l'amour de Dieu pour le monde. Comme le Père, Jésus nous envoie par amour pour le monde. Son cœur est de réconcilier avec Dieu toutes celles et ceux qui se sont éloignés de lui et qui croiront en son nom. Il y a un rapport étroit entre la mission de Jésus et la mission que Jésus nous donne. Il y a vraiment un rapport étroit entre la mission de Jésus et la sienne, et la nôtre. Il s'agit d'annoncer le pardon des péchés par la proclamation de l'Évangile, par la proclamation de sa mort, de sa résurrection dans le monde entier. Il nous rend participants Ça, c'est génial. Dieu, le Père, a envoyé Jésus en l'aimant. Il ne l'a pas rejeté. Il n'a pas dit, allez, va sur terre, dégage. J'ai quelque chose pour toi. Il ne l'a pas envoyé comme ça. Il l'a envoyé en l'aimant. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, au verset 17, au moment où Jésus va se faire baptiser, le ciel s'ouvre et il y a cette voix qui retentit, celui-ci, qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Et à plusieurs reprises, on va le voir dans les Écritures, il est écrit, le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il a fait. Dieu a envoyé Jésus en l'aimant. Et même si les disciples se sont éloignés de Jésus avant qu'il soit crucifié, même si l'un d'eux l'a renié, son amour pour eux n'a jamais failli. Il est allé même jusqu'au bout et a prouvé son amour pour eux de façon ultime en mourant pour eux sur la croix. Et ce matin, j'aimerais redire, j'enfonce sans doute des portes ouvertes pour beaucoup, mais l'amour de Jésus pour toi n'a jamais failli et ne faillira jamais. Il s'est exprimé de façon ultime pour toi sur la croix. Jésus nous envoie, Jésus vous envoie avec amour. Il ne te tend pas un piège. Il ne te cache pas que cela pourra être difficile, mais le point final de ta vie terrestre et le point de départ de ta vie céleste est déjà scellé. Parce que les promesses sont accomplies. Parce que Jésus a accompli sa mission. Nous allons, nous sachant aimer de Dieu et aimer de Jésus. Dieu a envoyé Jésus aussi, sachant que ça allait lui coûter. Si je vous envoie là maintenant tout de suite à aller chercher du pain, vous allez devoir quitter notre réunion et renoncer à écouter la suite du message pour faire ce que je vous demande. Accepter une mission, ça coûte. Jésus a quitté sa gloire dans le ciel pour venir nous servir sur terre, donner sa vie pour nous. Paul dit aux Philippiens, ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Quel exemple! Et Paul nous dit, ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Le Père a envoyé Jésus sachant que ça allait lui coûter, sachant que ça allait être difficile, sachant qu'il allait souffrir. Jésus envoie ses disciples, nous envoie, sachant que cela va nous coûter. Je vais être honnête avec vous, ça va vous coûter. Il nous faudra parfois renoncer à certaines choses. Une réputation, une situation de vie plus confortable. Cela va vous coûter notre temps. Cela va vous coûter votre argent, cela va vous coûter votre vie, nous dit la parole de Dieu. Jésus nous dit, je vous envoie pour porter au monde entier ma paix, ma lumière, ma vérité, ma vie. Votre mission, si vous l'acceptez, est que dans la paix de Dieu, ça c'est important, que dans la paix de Dieu, c'est la base, vous fassiez la volonté de Dieu pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Au verset 23, il est dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Un peu compliqué, j'ai trouvé ce verset. Et je pense que le verset 23 nous explique que ceux qui accueilleront le message, ceux qui accueilleront notre témoignage seront pardonnés, mais ceux qui refuseront ce témoignage ne seront pas pardonnés. Jésus nous dit, quand tu rendras témoignage de moi, que tu raconteras ce que j'ai fait avec ma parole et la puissance de mon esprit, c'est moi qui parle au travers de toi. Et si la personne croit à ta parole, alors je lui pardonne ses péchés. Et si la personne ne croit pas à ta parole, alors je ne lui pardonne pas ses péchés. Il nous le dit très bien dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors voilà cette deuxième parole que Jésus dit à ses disciples juste après sa résurrection. Première, je vous donne ma paix. Que la paix soit avec vous. Deuxième parole, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et troisième parole, vraiment importante, recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Jésus leur annonce qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Il souffle sur eux comme un signe prophétique de ce qui va arriver. Il leur dit, on le voit un peu plus en détail dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, verset 49, au même moment, à la même situation, Jésus vient d'apparaître à ses disciples, et il leur dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez en ville. Restez en ville, restez là où vous êtes, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ne partez pas, ne fuyez pas, attendez ce que le Père a promis. Ne partez pas dans cette mission, ne commencez pas ce que je vous ai dit, tant que vous n'ayez pas reçu l'Esprit, l'Esprit Saint, attendez. Et Jésus a répandu l'Esprit Saint sur ses disciples quelques semaines après sa résurrection et après qu'il soit monté au ciel. Nous le lisons et vous pourrez le lire dans le livre des Actes. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus nous donne la puissance de faire ce que nous sommes tout simplement pas capables de faire par nos propres forces. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Il nous rend capables d'accomplir la mission dans laquelle Jésus nous envoie. Une mission impossible, mais avec l'aide du Saint-Esprit, qui sera possible. Les disciples, des personnes simples, comme vous et moi, qui ont trahi même et abandonné Jésus, vont accomplir des choses extraordinaires. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en eux, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Il nous rend capables d'accomplir la mission dans laquelle Jésus nous envoie. Et je vais le répéter parce que c'est important. Ils étaient des personnes comme nous. Et ils vont accomplir des choses extraordinaires. Pas seulement parce qu'ils ont compris le sens de ce que Jésus a fait pour eux et pour le monde, mais parce qu'ils ont reçu la puissance dont Jésus a parlé, l'Esprit Saint dans leur vie. Voilà comment Jésus nous envoie dans sa mission. Il nous prend tel que nous sommes, pas la meilleure équipe, comme dans la série Mission Impossible, mais il vient à nous là où nous sommes, là où on est pour nous donner sa paix, premièrement. Et ensuite, il nous envoie comme le Père l'a envoyé, par amour, avec amour. Et il nous envoie avec la puissance du Saint-Esprit pour nous accompagner et nous donner le pouvoir d'accomplir sa mission. C'est lui qui va œuvrer avec nous et au travers de nous. Et j'aimerais terminer en disant, voilà, durant les semaines qui viennent, nous allons continuer de nous intéresser au royaume, bien sûr, mais plus spécifiquement aux œuvres du royaume. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous allons faire doit servir ce grand mandat que Jésus a donné afin de manifester l'amour de Dieu pour le monde et qu'un grand nombre soit sauvé, libéré de leurs péchés en recevant le message de ce que Christ a accompli pour qu'ils soient en paix avec Dieu. Voilà. Merci Seigneur. C'est ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin.
Merci beaucoup Pierre. Merci beaucoup pour ce message. On applaudit. Merci beaucoup, tu nous rappelles l'essentiel, tu nous rappelles ce qui est tellement important. Et c'est vrai que pour terminer ce culte, c'est ça, c'est qu'on est envoyé par Dieu, on reçoit le Saint-Esprit, pas juste pour nous, mais en fait on reçoit le Saint-Esprit aussi pour les autres, pour aller. Et je vous invite vraiment à être sensible cette semaine. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va vous pousser à faire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit, là, où est-ce que le Saint-Esprit va vous pousser à aller? Peut-être en dehors de vos murs, peut-être chez un voisin, peut-être auprès de quelqu'un que vous rencontrez au magasin. Saint-Esprit va vous pousser, va vous inspirer. Soyons sensibles et manifestons les œuvres du royaume. Alors, soyez vraiment bénis chacun pour cette nouvelle semaine. Que le Saint-Esprit vous remplisse de sa joie, de sa force, au-delà de toute circonstance, qu'il soit notre sujet de joie. Soyez vraiment bénis et on se retrouve donc dans les groupes de vie cette semaine. Si vous ne faites pas partie d'un groupe de vie, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour rejoindre parce que c'est vraiment important. C'est là que la vie de tous les jours aussi elle se forme et où on crée des liens plus forts. Voilà, et sinon je vous dis à dimanche prochain. Soyez tous bénis. On va rouvrir les micros.